Bienvenue dans notre émission Onde du Vivre Ensemble, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration.
En ce mois de mars, nous parlons de fraternité avec l'égalité en question dans les institutions. Vous allez retrouver une émission avec Naïma Charaï, conseillère régionale d'Aquitaine, déléguée aux solidarités, à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations. Elle est également présidente de l'Accès. Cette émission est l'occasion de faire un retour sur la journée de la femme qui s'est déroulée le 8 mars avec une présentation des actions du Conseil régional sur l'égalité des sexes et la lutte contre les discriminations et une présentation des missions et des actions de l'Accès.
Et Naïma Charaï, bonsoir.
Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur les ondes de radio et dans cette émission. C'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà de discuter des droits des femmes dans cette émission. Je me rappelle, on avait de nombreux invités autour de ce plateau. Et cette fois-ci, vous êtes notre seul invité. Donc voilà, on va vous donner la parole un peu plus longtemps cette fois-ci, Naïma Charaï. Donc nous avons Hugo Hamès pour le Courrier français Girondin. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Jean-Christophe.
Nous avons Paul-Michel Borgne pour l'Écho des collines. Bonsoir Paul-Michel.
Bonsoir.
Et nous avons une nouvelle dans l'émission. Nous sommes très heureux de saluer sa présence, Solène Méric, pour acquis.fr. C'est bien ça, Solène ?
C'est bien ça. Très heureuse d'être là aussi.
Donc voilà, on fait un petit salut à Jacques Brunet pour l'Écho des collines et Joël Aubert pour acquis.fr. Et on va tout de suite attaquer cette émission, les 4 médias, sur la question des droits des femmes. Évidemment, on va avec vous, Naïma Charaï, nous allons dans ces 4 médias revenir sur le 8 mars et la journée internationale des droits de la femme, et notamment la journée que le Conseil régional d'Aquitaine, avec Lettres du Monde, a organisée au Rocher de Palmer le vendredi 8 mars, avec en point d'orgue de cette journée la table ronde avec ce titre « Le pouvoir a-t-il un sexe ?» Table ronde qui était animée par Fabienne Brugère, philosophe et professeur à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, avec de nombreuses intervenantes. On reviendra en détail sur le programme de cette table ronde. Et nous poursuivrons avec vous, Naïma Charaï, sur les actions du Conseil régional de l'Aquitaine, et plus particulièrement sur celles qui touchent à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Et enfin, nous finirons cette émission, Naïma Charaï, avec votre nomination à la présidente de l'Accès. C'était courant du mois d'octobre 2012. L'Accès, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Alors, tout d'abord, comme on le disait, Naïma, on va peut-être revenir sur l'actualité. C'est vrai que vendredi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, donc de nombreuses manifestations, comme chaque année. Alors, certains se plaignent que c'est qu'un jour dans l'année, évidemment, où on parle des droits des femmes. Mais le gouvernement nous a dit qu'il y avait peut-être une proposition, enfin notamment la ministre des Droits des Femmes, pour faire de cette journée toute une année, finalement 365 jours, 365 actions pour le droit des femmes. Donc peut-être dans un premier temps, Naïma, revenir avec vous sur cette table ronde qui a été comme un point d'orgue un peu sur cette journée qui commençait dès le matin et qui s'est finie dans l'après-midi, c'était vendredi dernier au Rocher de Palmer. Avec cette table ronde qui nous parlait, est-ce que le pouvoir a-t-il un sexe finalement ? Alors, le Conseil régional, on le sait, chaque année, dans le cadre de cette journée, organise une manifestation. Cette année, c'était au Rocher de Palmer. Et Naïma, vous étiez présente d'ailleurs sur cette journée. Et alors, peut-être un petit retour sur l'organisation déjà de cette journée et sur le choix de la thématique de cette table ronde avec des intervenantes prestigieuses. Et, on va y revenir. Eliane Viennot, hein, Mariette Sino ou encore Réjeanne Sénac. Alors, pourquoi ce choix-là, Naïma, et comment on organise une telle journée ?
Alors, comme vous le disiez, le 8 mars, c'est toute l'année, donc c'est le slogan de la ministre en charge du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Pour nous, en tant que conseil régional, il était extrêmement important, en tout cas, de marquer cette journée internationale du droit des femmes pour d'abord présenter les actions que nous menons dans notre collectivité en faveur du droit des femmes. C'est une problématique qui est portée par le président Alain Rousset. J'ai cette délégation en effet égalité femmes-hommes et nous menons un certain nombre d'actions tout le long de l'année sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les violences faites aux femmes, sur la santé génésique, notamment avec la mise en place du pass contraception et bien évidemment l'accompagnement de l'ensemble des associations qui œuvrent pour le droit des femmes. Donc le 8 mars, c'est vrai, c'est une journée particulière puisque ça nous permet de rencontrer l'ensemble en fait des actrices et des acteurs qui œuvrent pour le droit des femmes, et c'est une journée importante pour eux, mais aussi pour nous. Donc c'est un moment d'échange et qui est suivi par un moment de convivialité. Cette année, en effet, on a choisi une thématique un peu, j'allais dire, symbolique, puisque il y a eu du changement ces derniers mois. C'est la première fois qu'on a un gouvernement en fait paritaire, c'est historique. On a un ministère de plein exercice. Ça faisait plusieurs années que les féministes et les associations et les femmes politiques réclamaient la réinstallation de ce ministère aux droits des femmes, parce qu'il nous semblait extrêmement important que la problématique en fait des femmes soit prise en compte au plus haut niveau. C'était un clin d'œil, donc cette thématique, on a invité, comme vous le disiez, des personnalités prestigieuses, Réjeanne Sénac, Eliane Viennot, Mariette Sino, qui ont chacune d'entre elles a abordé la question du pouvoir en fait des femmes et comment les femmes ont pris leur place dans la société française. C'était le cas de Eliane Viennot qui a fait, qui a dressé en tout cas un panorama historique de la place des femmes dans la société française.
De la confiscation de ce pouvoir par les hommes, hein,
absolument, c'est bien ça, Naïma. Absolument, absolument. Donc voilà, donc c'était en effet une table ronde assez prestigieuse, mais c'était simplement un moment important. Nous marquons en tout cas cet événement chaque année pour essayer de faire se rencontrer l'ensemble des actrices et des acteurs qui œuvrent autour du droit des femmes. Et puis en même temps, c'est pour nous l'occasion de reparler de ce que nous faisons au sein du Conseil régional d'Aquitaine. Un exemple d'un investissement et d'un engagement que nous avons pris, c'est sur l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans le champ professionnel. On a signé une convention au mois de février dernier. Donc c'est une signature entre la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, le président de région, Alain Rousset, et le rectorat, avec un certain nombre d'actions pour permettre l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aussi tout un travail autour de l'orientation des jeunes filles sur des filières qui sont dites masculines. J'ai participé d'ailleurs récemment dans le Lot-et-Garonne à une table ronde sur la mixité entre les femmes et les hommes dans l'apprentissage. On est en train de mettre en œuvre tout un travail avec la filière du BTP, notamment pour essayer d'orienter les jeunes filles sur des métiers dits masculins. Donc voilà, convention égalité professionnelle, la région a été choisie comme région d'excellence. Donc 9 régions françaises ont été choisies, la région Aquitaine en fait partie. Pardon. Un travail aussi autour de la contraception, donc ça aussi c'est un point important du travail de la région. En 2010 et 2011, nous avions mis en œuvre une campagne de sensibilisation et d'information sur l'ensemble du territoire aquitain sur les grossesses non désirées qui ont débouché sur la mise en place du pass contraception qui est en œuvre depuis la rentrée 2012, qui concerne à peu près 19 000 jeunes. On a choisi plutôt des territoires ruraux, donc des lieux éloignés des centres de soins ou des centres de planification. Donc c'est 3000 passes qui sont à la disposition des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc ça nous semblait aussi important de toucher les jeunes garçons puisque la contraception ne concerne pas que les filles, ça concerne aussi les garçons, c'est une histoire de couple, etc. Donc on a décidé de cibler les filles et les garçons. Donc ce passe contraception, il se présente sous forme d'un coupon, donc avec une consultation consultation gratuite chez le médecin, une contraception gratuite pendant 3 mois, renouvelable une fois, donc c'est 6 mois de contraception gratuite, c'est la contraception d'urgence, c'est les prises en charge en laboratoire d'analyse, et enfin des plaquettes d'information sur l'ensemble des contraceptions et sur les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, donc on a souhaité que cet outil soit à la disposition des territoires les plus ruraux et des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'accéder au centre de planification des médecins, etc. Donc c'est un travail qu'on a fait avec le mouvement français pour le planning familial. Ça, je tenais à le souligner, elles font un travail remarquable sur l'ensemble du territoire et la région donc les accompagne pour la mise en place de ce pass contraception. Et enfin, une action aussi très forte, c'est le soutien et l'accompagnement aux associations de femmes et aux associations féministes. Donc on les accompagne pour les structurer, les accompagner au niveau régional. Donc et nous sommes en fait très heureux d'accompagner ces associations qui œuvrent elles au quotidien pour le droit des femmes. Vous le savez, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. C'est 75 000 viols par an qui sont déclarés. C'est 50 000 mariages forcés. C'est 25% de salaire en moins à compétences et à fonctions égales. Donc nous avons de gros chantiers devant nous et nous sommes très heureux en tout cas d'accompagner ces associations qui sont au plus près en tout cas des femmes qui souffrent. Et nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir les accompagner depuis maintenant de très nombreuses années. Voilà oui. Un peu, je balaye le travail de la région sur cette question-là.
C'est vrai que ça fait un sacré éventail, Naïma Charré. Et en même temps, en vous écoutant, ça nous permet aussi de réaliser autour de ce plateau, finalement, la concordance des politiques publiques menées par le Conseil régional en faveur des droits des femmes. Et finalement, ce nouvel élan qui a eu lieu à l'occasion de l'élection du nouveau président en 2012, François Hollande, vous l'avez d'ailleurs signalé, effectivement, avec d'une part cette parité au gouvernement, c'est un fait unique et une première en France, le rétablissement du ministère des droits des femmes, qui avait été créé en 1981 par François Mitterrand et la ministre Yvette Roudy. On le voit aussi par le rétablissement du délit pour le harcèlement sexuel qui a été vite réglé dans le courant de l'été, le remboursement de l'IVG à 100% par la sécurité sociale, la gratuité de la contraception pour les mineurs. Et puis, on va parler aussi de cette loi cadre qui va être installée par le gouvernement sur justement pour la parité, pour réduire les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, et aussi pour lutter contre les violences aux femmes. On le voit aussi avec ce plan d'action qui est mené par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du droit des femmes. Donc, est-ce que d'un coup la région se retrouve, on va dire, en écho, en concordance avec une politique gouvernementale qui n'était peut-être pas le cas ces 10 dernières années. Est-ce que ça a un effet, une dynamique nouvelle, quoi. Finalement, ça relance une dynamique sur cette question-là des droits des femmes, Naïma Charré.
Alors, les années précédentes, on était plutôt avant-gardiste, en fait, les régions. Et puis surtout, on a permis aux femmes et aux associations femmes, pardon, de continuer en fait à exister, et nous étions plutôt en résistance donc face à un gouvernement de droite qui a démantelé un certain nombre de politiques publiques. Et c'est vrai que la région Aquitaine a mis en œuvre des actions en faveur du droit des femmes, mais elle n'a pas fait simplement en Aquitaine. Je préside aussi la commission nationale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations à l'Association des régions de France. Donc on est beaucoup de régions françaises à avoir œuvré pour le droit des femmes les années qui nous ont précédées. Et c'est vrai qu'avec l'installation d'un ministère de plein exercice, hein, elle est Najat Vallaud-Belkacem et ministre, contrairement à ce que disait il y a quelques jours David Pujadas au journal du 20h sur France 2. Elle n'est pas ministre déléguée, donc elle est ministre de plein exercice. C'est quelque chose que les féministes réclamaient depuis de très 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 nombreuses années. Donc il y a une dynamique nouvelle. Et c'est vrai qu'on est, nous, enchantés et très heureux d'avoir en tout cas une ministre en charge de ces questions-là, parce qu'il y a une émulation, il y a une nouvelle dynamique, et c'est vrai qu'on se sent davantage en fait soutenue, et on souhaite aussi davantage la soutenir, puisque elle a une tâche qui est lourde, elle a une lourde charge de traiter la question en fait de l'égalité entre les femmes et les hommes, de traiter de la question des violences faites aux femmes. C'est des problématiques difficiles, délicates, et c'est vrai que moi, en tant que déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, je suis heureuse en tout cas de cette nouvelle dynamique et l'ensemble des régions, puisque je préside cette commission à égalité, est aussi très satisfaite des nouvelles orientations qui sont prises par ce nouveau gouvernement. Il y a des problématiques qui sont prises en compte. Je vais vous raconter une anecdote, par exemple. Une femme m'appelle il y a quelques jours pour me féliciter du travail de la ministre en charge du droit des femmes, puisque elle a annoncé, je crois, il y a quelques jours, notamment sur le non-paiement des pensions alimentaires, que c'est la CAF qui se substituerait aux impayés des pensions alimentaires, et ensuite c'est la CAF qui se retournerait contre le mari qui veut pas payer les pensions alimentaires, pour que ces femmes qui sont pour la plupart en fait des familles monoparentales en difficulté puissent obtenir en fait l'argent qui leur permette d'éduquer leurs enfants dignement. Donc voilà, il y a un vrai changement, et cette personne m'appelait pour me dire voilà, je me sens écoutée, et votre ministre et notre ministre en charge du droit des femmes, eh ben, elle entend aussi ces femmes qui parfois sont dans la précarité, des familles monoparentales, et c'est vrai que c'est très satisfaisant de voir que le travail qu'on a initié en région Aquitaine et dans les régions françaises trouve un écho positif au sein du gouvernement. Donc c'est des choses que nous réclamions depuis de nombreuses années, et c'est utile aux femmes qui sont en grande difficulté.
Alors vous parliez, excusez-moi, vous parliez de ces militantes féministes finalement qui permettent finalement d'instaurer un rapport de force avec les différents pouvoirs, les différents pouvoirs publics, les différents gouvernements qui se succèdent. Mais on le sait, c'est vraiment une très longue marche. D'ailleurs, vous-même, Naïma Charaï, vous êtes une militante aussi, évidemment, qu'on peut rencontrer sur le terrain chaque fois qu'il faut défendre les droits des femmes. Mais on le sait, depuis la Révolution française, depuis Olympe de Gouges et sa fameuse déclaration de la citoyenne, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de cette marche pour les droits des femmes, ça a été une succession d'avancées, de reculs. Bon, aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, avec ce nouveau gouvernement, on va vers de meilleurs auspices. Mais aujourd'hui, pour ces militantes féministes que vous rencontrez sur le terrain, Naïma Charaï, est-ce qu'on ressent souvent, en discutant avec elle, toujours une inquiétude en se disant... D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que cet édifice qu'on a mis des dizaines, des centaines d'années, vu qu'il y a quand même des droits tout récents, comme on parle du droit de vote pour les femmes, c'est quoi? C'est 1944, une femme pour qu'elle ait un chéquier à son nom, sans nom demander l'autorisation de son mari, c'est 1970. Enfin, on le voit, c'est des avancées, des fois, pour certaines, très, très récentes. Vous parliez là de la pension alimentaire, encore quelque chose qui va évoluer. Donc, est-ce que finalement, au travers de ces décennies, de ces siècles, est-ce que l'édifice politique, juridique, social, législatif, que le combat de ces femmes pour accéder à leurs droits et l'ensemble de la société a pu construire au fil des décennies et des siècles, est-ce que cet édifice-là est assez solide aujourd'hui pour à la fois consolider finalement ces acquis-là, consolider les acquis que les femmes ont obtenus par leur combat, bien souvent, d'autre part, continuer les réformes qui sont encore aujourd'hui nécessaires pour lutter contre les discriminations? Parce qu'on le voit, il y a encore des écarts de traitement de salaire, il y a encore vraiment des violences subies et faites aux femmes. Vous rappelez les chiffres il y a quelques instants. Donc voilà, est-ce que le socle est assez solide pour à la fois consolider les acquis,
poursuivre les réformes pour éliminer, enfin réduire ces discriminations qui sont toujours faites aux femmes, et peut-être aussi pour instaurer une véritable parité dans notre société, Naïma, et surtout dans la sphère publique. On entend évidemment la sphère politique, mais pas seulement, l'entrepreneuriat et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que oui, les défis sont assez solides, ça va nous permettre de continuer, ou alors il faut toujours faire attention, chercher à le consolider et peut-être penser à des nouvelles réformes qui pourront nous faire aller vers cet horizon-là de l'égalité, de la parité entre les hommes et les femmes.
Parce que je refais référence à cette conférence que vous avez organisée avec l'aide du monde, le conseil régional d'Aquitaine et vous, Naïma Charaï, le 8 mars au Rocher, à cette table ronde. Le pouvoir a-t-il un sexe? J'ai envie de répondre, mais certainement oui, et il est plutôt certainement masculin encore aujourd'hui.
Oui, hein, c'était très bien rappelé. Alors, est-ce que l'édifice est suffisamment solide? Jamais assez, j'ai envie de dire. C'est Mariette Sinot qui le rappelait très justement. Le pouvoir a été confisqué en fait par les hommes, et on le voit quand on regarde les instances politiques, hein. L'Assemblée nationale, c'est seulement 26% de femmes qui sont représentées. Le Sénat, c'est autour, je crois, de 24%. Des femmes mairesses, il n'y en a seulement 15%. C'est autour de, je crois, c'est 15 ou 16%. Il y a seulement 5 femmes présidente de conseils généraux sur 101. Il y a simplement 3 femmes sur 26 présidents d'exécutifs régionaux. Donc, en effet, on est loin du compte et on est loin de la parité.
Alors ça, c'est en politique. Dans le privé, on pourrait dire, dans les entreprises, c'est pareil, les conseils d'administration, les grandes entreprises.
Exactement la même chose. Les femmes sont très peu représentées dans le monde aussi culturel, économique, social, médiatique. C'est les féministes qui le disent, en fait, très bien. Quand on écoute les matinales de radio, elles appellent plus ça maintenant les matinales, elles appellent ça les matimales. Donc, il n'y a que des hommes en radio. Quand on regarde la télévision, c'est affligeant. Et notamment sur les émissions.
Oui, les médias, tout à fait.
Il y a aussi une représentation qu'il faut avoir aussi dans le monde des médias. Quand on regarde certaines émissions politiques, j'ai pas envie de citer des noms, mais je vais le faire parce que ça m'agace tellement que. Regarde les émissions de Yves Calvi, il n'y a jamais de femmes sur ces plateaux, que ce soit Mots croisés ou C'est dans l'air. Les émissions en fait politiques, c'est plutôt des éditorialistes qui se font inviter constamment, donc on est très peu représentés dans le monde en fait des médias.
En termes d'animation et aussi d'invités, de spécialistes, d'experts, quand on fait appel à une femme, c'est pour nous parler de la femme au foyer, de la garde des enfants, mais pas pour nous parler de science, pour nous
et parler. Et c'est généralement quand on regarde les JT, les émissions, les femmes quand elles apparaissent en fait à la télévision, c'est surtout dans des positions en fait de témoignage. Donc témoignage sur la vie privée, vie professionnelle, etc., mais jamais en tant qu'expert. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur la représentation en fait dans le monde des médias. Il y a des choses qui ont avancé. Le président de la République a donné quelques signes avec 3 femmes au CSA, le Conseil constitutionnel où il a fait rentrer des femmes. En effet, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas suffisant, mais il y a des pas qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, la ministre en charge de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, a décidé de travailler sur cette question de la représentation des femmes dans le monde des médias et dans le monde de la culture. Donc c'est des sujets aussi qui sont importants parce que c'est des fenêtres et des vitrines où les jeunes filles ou les petites filles peuvent aussi s'identifier à un certain nombre de femmes. Et c'est important que ces femmes-là puissent être présentes aussi dans les médias.
Très bien. Hugo Hamès.
C'est que dans les médias, la femme représente souvent le côté sentimental, émotionnel,
oui,
tandis que l'homme serait plutôt la raison.
Oui, absolument. Tout à fait.
Alors peut-être effectivement les médias ont quand même une grande influence en termes d'éducation, hein. C'est la petite lucarne qui va entrer chez nous et qui va peut-être véhiculer des systèmes de représentation, ce que vous étiez en train d'évoquer finalement, Naïma Charaï. On retrouve la femme dans un système de préjugés où on pense
c'est
qu'elle
est stéréotypes,
et on reproduit le modèle. Donc peut-être que ce travail doit se passer aussi en amont, on va dire dès l'école, le collège, le lycée, pour justement
déconstruire ces systèmes de représentation. Vous parliez des métiers dits genrés. Évidemment, les hommes disent ça, c'est le métier réservé aux hommes. Peut-être que les femmes l'entendent pas de cette façon-là. Donc, ce travail d'éducation dès le plus jeune âge, Naïma, ça aussi, c'est une piste importante.
C'est pas une piste. C'est déjà, ça sera en action à partir de la rentrée. Donc, c'est la ministre en charge du droit des femmes et le ministre de l'Éducation qui mettent en œuvre ce qu'on appelle l'ABCD de l'égalité. Donc ça va concerner les enfants à partir de la grande section de maternelle et ça va être dans les écoles primaires, collèges, etc. Donc c'est un dispositif qui vise à lutter contre les stéréotypes, les préjugés, mais qui vise surtout l'égalité entre les filles et les garçons. Donc dès la grande section de maternelle, donc à partir de la rentrée, et aussi un module qu'ils ont appelé en fait Respect. Donc voilà, c'est pas du tout une piste, c'est déjà en action et donc voilà, et à partir de la rentrée prochaine, il faut saluer ce type de dispositif puisqu'il faut en effet déconstruire les stéréotypes et les représentations dès le plus jeune âge.
Et est-ce que l'une des pistes pour atteindre cette égalité, ce serait pas aussi de donner plus de droits aux hommes, je parle notamment aux pères qui ne peuvent pas avoir ou alors ne prennent pas leurs congés parentaux, ou n'ont pas les mêmes facilités pour accéder à la paternité, et que ça crée peut-être des représentations, ça entraîne peut-être plus de femmes au foyer, et de pères qui sont là pour ramener de l'argent.
Mais le gouvernement le propose, en fait, la facilitation du congé parental pour les pères. Donc,
le président de la République l'a annoncé il y a quelques jours.
Le 8 mars, il a annoncé le 8 mars.
Et seuls 3% des pères les
prennent. Oui, absolument. Donc, c'est pas suffisant. Donc, en effet, donc, il va y avoir des mesures incitatives pour que les pères puissent prendre ce congé parental. La famille a évolué. Et je pense que leurs pères ont tout à fait leur place dans l'éducation, en fait, de leurs enfants et dès le plus jeune âge, contrairement aux idées reçues.
Alors, j'évoquerai une possibilité. Je ne sais pas si ça fait partie des actions entreprises ou peut-être des pistes de réflexion, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'on se pose la question, finalement, Naïma, Charaï, du budget, voilà, l'argent public dépensé, on va dire on dépense de l'argent pour les jeunes, pour les adultes. Et est-ce que finalement, ce budget, on n'aurait pas tout intérêt à le genrer pour voir et pour finalement pouvoir l'évaluer et voir finalement où va cet argent? Je fais référence à une enquête qui a été faite il y a pas si longtemps que ça par une jeune doctorante là sur le territoire de Floirac, Senon, mais aussi Blanquefort, sur la Edith Marujou, sur la disparition des fils, des espaces publics, qu'on parle du sport, de la culture ou des loisirs à partir de l'adolescence, et où on s'aperçoit, là, que l'argent dépend. L'argent public dépensé, finalement, mais va aller uniquement pour les garçons parce que les filles n'en profitent pas, elles ne sont plus là. Et du coup, par ricochet, je me dis, est-ce que quand on budgète une politique publique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, mais voilà, il y a tant d'argent qui va être dépensé à destination des femmes, tant pour les hommes, et puis s'assurer qu'à la fin, cet argent-là aille bien et il soit bien utilisé par les femmes. Je sais que, par exemple, dans un pays comme le Maroc, j'ai croisé une ancienne ministre la vendredi dernier à l'occasion d'une conférence sur parité, égalité dans la Méditerranée, Madame Nouza Skali, je crois la première ministre femme du Maroc, et qui disait que le Maroc avait mis en place un budget genré, justement.
Gender budgeting, ça s'appelle. Oui. Je crois que c'est.
Est-ce que ça serait possible, ça, en France, Naïma Charaï? Et d'après vous, est-ce que ça serait utile? Est-ce que, finalement, ça ne permettrait pas mieux d'évaluer l'impact du petit public, mais là, cette fois-ci, par genre?
Oui, ça peut être une piste de travail. Bien évidemment, il y a des régions qui le font déjà, qui ont genré leur budget pour voir l'impact sur les femmes et sur les hommes. Est-ce que les politiques publiques bénéficient de manière égale aux femmes et aux hommes, aux lycéennes et lycéens, aux apprentis et aux apprentis, aux formés et aux formés. Donc oui, en effet, ça peut être tout à fait une piste de travail qui nous permet de voir l'impact de nos politiques publiques en fonction du genre, bien évidemment. Donc nous, on ne l'a pas mis en œuvre en fait en Aquitaine, mais ça peut être tout à fait une piste de travail, en effet.
Très bien. Peut-être une question de l'écho des collines ou d'Aki.fr, Naïma Charaï. Et on passera sur l'autre volet de l'émission, à savoir Naïma Charaï, nommée présidente de l'ACCE.
Oui, donc vous parliez d'encourager
dès l'école, en fait, favoriser l'image des filles, qu'elles soient voilà, plus motivées à se valoriser dans des métiers genrés ou pas. Mais bon. Donc pour l'école, pour les enfants, c'est bien, mais pour les adultes, celles qui sont femmes maintenant ou qui sont... qui ont la vingtaine, qui sont étudiantes, comment est-ce qu'on peut justement, parce qu'au final, c'est un genre d'autocensure, quelque part, que les femmes se lancent peut-être moins en politique, par exemple, ou dans d'autres métiers, comment est-ce qu'on peut essayer de lutter contre cette autocensure? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est justement un travail plus global sur la société, en général?
Je pense que c'est un travail plus global sur la société, mais en même temps, il faut qu'on avance notamment sur l'orientation. Donc, vous le savez, les filles réussissent mieux à l'école. Donc, elles réussissent mieux, notamment sur les filières scientifiques. Et au moment de l'orientation, que ce soit pour des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles ou des prépas, eh ben, elles sont plus facilement orientées sur les filières dites féminines, les filières littéraires, les filières liées aux sciences humaines et aux sciences de l'homme, etc. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire autour de l'orientation. Et c'est une nécessité parce que il n'est pas normal que des femmes ou des jeunes filles qui réussissent mieux à l'école soient si peu orientées sur les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Donc il y a un travail à faire autour de cela, et plus globalement c'est un travail à faire bien évidemment sur la société dans son ensemble.
Et oui, la promotion de ces métiers-là finalement dès le plus jeune âge aussi, pour dire qu'ils sont tous accessibles à tous, hommes, femmes, voilà, il n'y a pas de métier aujourd'hui avec tous les progrès technologiques qui ne soient plus du tout accessibles à une femme, même dans la construction, les bâtiments, les transports.
Il y en a, par exemple, dans le numérique, il y en a beaucoup moins de femmes que d'hommes.
Eh oui, oui.
Oui, mais elles ne sont pas orientées. Ouais, puis il y a des phénomènes, comme vous l'indiquez, d'autocensure. Je pense qu'il y a probablement des campagnes d'information grand public à faire, et qu'on voit des femmes... davantage de femmes, comme vous l'indiquez, dans le numérique, mais aussi sur les filières dans l'aéronautique, puisqu'on est une région d'aéronautique.
C'est même le fleuron technologique. Oui,
absolument. Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que le conseil régional aussi lutte à sa manière et prévient ces discriminations, avec un appel à projet notamment, hein, prévention et lutte contre les discriminations dans la formation professionnelle et l'apprentissage en Aquitaine. Et évidemment, on le sait, quand on regarde le bilan annuel du défenseur des droits, la discrimination au genre arrive en deuxième, troisième position. Donc c'est une des discriminations les plus important de notre société. Peut-être Paul Michael pour l'Écho des Collines.
Oui, moi je voulais revenir par rapport à la plus importante des discriminations sexistes, qui est donc la discrimination économique. Et je voulais savoir s'il fallait s'attendre à la création donc d'un ministère des travailleuses, ou bien patienter en attendant que la bienveillance du patronat se porte sur les travailleuses.
Non, je crois qu'il y a une vraie volonté, la politique de l'ensemble du gouvernement et du Premier ministre, président de la République et de notre ministre en charge du droit des femmes, pour que ça avance assez rapidement. Il n'est pas acceptable aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2013, qu'une femme à compétence, à fonction égale, perçoive jusqu'à parfois 27% de salaire en moins. C'est inacceptable. Donc il y a des avancées qui vont avoir lieu, je pense, dans les prochains mois. Donc on ne va pas attendre la création d'un ministère des travailleuses, mais plutôt on va essayer de faire appliquer la loi.
Ni la bienveillance du MEDEF.
Oui, non, je pense qu'on ne l'aura pas. Donc, il y a des choses qui vont évoluer et avancer très rapidement.
Bon, en tout cas, Naïma Charay, on vous remercie pour l'ensemble de ces informations qui faisaient un écho, évidemment, à la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et on va peut-être passer, pour finir cette émission, à votre nomination qu'on a appris ici en tant que média.
Voilà,
par un communiqué de presse au mois d'octobre. Bon, on se disait, mais Naïma Charay, très bien. Mais c'est vrai qu'on était très heureux ici en interne, parce que bon, on vous connaît, on connaît votre travail sur le terrain, et que vous soyez nommé président de l'ACCE. Alors peut-être Naïma Charay, tout le monde ne connaît pas l'ACCE. Effectivement, Absolument. Nous on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire ici autour de ce plateau, donc on connaît bien cette institution. Mais pour l'ensemble de nos auditrices, nos auditeurs, un petit mot de présentation de cette agence. On le sait, une agence importante, une agence nationale. Donc, effectivement, depuis la prise de vos fonctions, vos orientations, Naïma.
Absolument. Donc, cette agence, elle a été créée Après, certains appellent ça les émeutes. Moi, j'ai plutôt tendance à appeler ça la révolte sociale et populaire des quartiers, de la banlieue. Donc, c'était après novembre 2005 et le décès des deux jeunes garçons, Ziyad et Bouna.
Dans cet émetteur-là, en fait, TTF. Là,
tout à fait, absolument. Donc, c'était à Clichy-sous-Bois. La problématique en fait de la banlieue a fait éruption avec le décès de ces deux jeunes garçons. Donc, et le président de la République de l'époque, donc c'était Jacques Chirac, a souhaité réformer un peu la politique de la ville. Et c'était le ministre en charge de la ville, c'était Jean-Louis Borloo. Donc, ils ont décidé de créer cette agence pour la cohésion sociale, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, une agence dédiée aux habitants des quartiers populaires, ce qu'on appelle la banlieue. Cette agence, elle a un budget de 350 millions d'euros. Elle a des actions qui sont définies en fait par la loi. Donc elle doit œuvrer pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. On œuvre sur l'éducation, puisque nous mettons en œuvre chaque année ce qu'on appelle les programmes de réussite éducative. Donc c'est des programmes qui sont en charge d'accompagner 120 000 enfants sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une prise en charge individualisée, personnalisée. Donc les villes qui sont en zone urbaine sensible connaissent en fait tout à fait ces PRE.
Tout à fait, c'est le cas de la rive droite d'ailleurs. Absolument. Avec les villes du GIPV, Grand fait. Projet de ville, Bassin, selon Florac Lormand, on retrouve ce dispositif, Naïma.
Tout à fait. Un volet en fait éducation, donc c'est le plus gros en tout cas des financements de l'accès qui sont orientés sur l'éducation. Il y a un volet cohésion sociale, donc avec l'accompagnement de 7000 associations sur l'ensemble du territoire, les 4000 adultes relais qui œuvrent autour de la médiation sociale, culturelle. Donc l'idée, c'est d'accompagner tout le tissu associatif qui permet de créer et de maintenir le lien social dans les quartiers populaires.
Quand vous dites accompagnement, c'est subvention ?
Oui, mais pas seulement. Donc on peut aussi travailler avec elles sur de nouvelles orientations, de les structurer aussi, donc de mettre en lumière un certain nombre d'associations quand on trouve qu'elles se sont distinguées par rapport à leurs actions. Donc,
peut-être par le biais d'appels à projets aussi, Naïma.
Il y a aussi ça, absolument. Ouais. Donc, ensuite, un gros volet qu'on a au sein de l'agence, c'est ce qu'on appelle en fait la prévention en fait de la délinquance. Donc là, on travaille beaucoup autour de la problématique des violences faites aux femmes, puisque une partie de nos financements vont sur la prévention des violences faites aux femmes.
On a vu, Naïma, une annonce du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, disant que sur cette question-là, justement, de l'accueil des femmes ayant subi des violences, peut-être l'installation de médiateurs dans les commissariats pour recueillir, absolument, accueillir, accompagner les plaignantes.
Absolument, c'est une très bonne piste de travail. Donc prévention de la délinquance, c'est aussi tout ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité dans le cadre de la rénovation urbaine. On travaille là-dessus, sur la sécurisation des lieux publics. Donc voilà. Et puis on a toute une partie autour de l'emploi et du développement économique. C'est 13 000 créateurs d'entreprises qu'on accompagne chaque année, donc ou reprises d'entreprises. C'est des centaines de milliers de parrainages. C'est un club d'entreprises qui est rattaché au conseil d'administration, qui œuvre dans les quartiers populaires. Et puis, de nouveaux chantiers, donc c'est la prévention et la lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est un sujet qui tient à cœur à mon ministre de tutelle, François Lamy. Donc on travaille autour de cette problématique de la prévention et de lutte contre les discriminations. Il y a aussi, moi, j'ai ouvert un chantier.
Et là, on retombe sur une de vos compétences au
absolument
conseil régional, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Donc je dois d'ailleurs lui faire un certain nombre de propositions que je ferai probablement avant l'été. Donc il y aura des annonces qui seront faites autour de cette question-là. Et puis j'ai ouvert de nouveaux chantiers parce que depuis ma nomination, j'ai fait le tour de France, de Lille à Roubaix, en passant par Lyon, Montpellier, Marseille. Je constate en fait une situation qui est extrêmement grave.
Donc un état des lieux et puis.
Oui, absolument. Donc.
Situation plutôt grave en termes de cohésion de notre société, Naïma Charaï.
Oui, c'est pas plutôt, c'est très grave. Ouais. Donc elle, une situation en fait grave. Ouais, on est loin des clichés en fait de la banlieue, du jeune garçon avec sa casquette qui tient les murs de son immeuble. Là, on a affaire quand même à la grande précarité. Il y a des fois, j'ai l'impression d'arriver dans le quart monde. C'est 22% de la population en banlieue qui est au chômage. Des classes d'âge, parfois, qui vont...
Jusqu'à 40%, elle est plus jeune. Hein.
Oui, plus jeune, et parfois même...
Même au-delà.
Même au-delà. Beaucoup de familles monoparentales. C'est 26% des familles qui sont des familles monoparentales en banlieue, alors que c'est 15% le chiffre national.
Oui, et puis je vous le dis, Naïma, c'est pas dans un pays du Sud, c'est juste à côté, ouais, c'est près de chez nous, ouais, c'est un quartier populaire à côté de chez nous.
Donc voilà, une grande précarité, une grande pauvreté.
Donc là, on ressent aussi l'impact de la crise, finalement, qui vient s'ajouter comme une...
C'est le rapport, c'est l'Observatoire national des zones urbaines sensibles qui a indiqué que les premières victimes de la crise sont les habitants des quartiers populaires. Voilà. Ça, il faut bien l'avoir en tête. À côté de cette grande précarité, il y a aussi, moi, je constate en tout cas la montée du communautarisme. Donc, il y a de vraies interrogations par rapport à ça. Et en même temps, avec ce tableau très noir que je viens de vous dresser, il y a une formidable vitalité, des initiatives extraordinaires, des gens qui se battent au quotidien. C'est souvent des femmes qui œuvrent pour le maintien et la cohésion sociale. Donc voilà, à côté de ce tableau très noir, de très belles initiatives que je n'ai jamais vues ailleurs. Donc une grande vitalité, parfois je dis même une pulsion de vie de ces habitants des quartiers qui résistent quand même face à la crise.
Oui, alors c'est en vous écoutant qu'effectivement on prend conscience effectivement de la gravité de cette situation. Bon, on connaissait effectivement les statistiques dans ces quartiers populaires, ces territoires de banlieue, mais effectivement la crise économique par-dessus, on va dire cette situation-là, ne fait qu'aggraver effectivement la situation de ces populations-là. Donc l'accès finalement, est-ce qu'on peut dire, Naïma Charaï, que l'accès avec le réseau associatif partenaire de l'accès, on va dire que est-ce que les associations sont le média, le relais privilégié pour finalement toucher les habitants à travers les politiques impulsées par l'accès?
Oui, c'est l'un des médiateurs. Elles ont souffert ces dernières années, hein, donc. La droite les a pas laissées tranquilles quand même, hein. Beaucoup sont mortes. Je crois qu'on est passé de 10 000 associations accompagnées dans la politique de la ville à 7 000, donc 3 000 associations qui ont pas survécu à la droite. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, et moi à la tête de cette agence et avec les équipes de cette agence, c'est de revivifier, comme on dit, faire revivre en tout cas ce tissu associatif qui pour nous est indispensable. C'est elles qui sont les actrices de la cohésion. Donc notre rôle, en tout cas à la tête de cette agence, c'est de les faire revivre, de les soutenir, de les accompagner, parce qu'elles sont aussi au service de la cohésion nationale. Puisque je tiens à dire, le travail de cette agence, ce qu'on fait en fait en banlieue, ne sert pas seulement en fait les habitants des quartiers. On n'est pas simplement utile aux habitants des quartiers. On est utile à la cohésion nationale. Voilà.
Oui, c'est en cette. Oui.
Allez, 350 millions d'euros de budget. L'accès, les moyens de ces ambitions.
Non, parce que le chantier est grand et la politique de la ville et le budget de l'accès ne peut pas se substituer au droit commun. Hein. On arrive en plus du droit commun, donc on ne peut pas se substituer ni à l'éducation nationale, ni à l'emploi, ni au transport.
Mais c'est un effet de rééquilibrage finalement.
C'est en plus.
Oui, c'est en plus.
C'est ça. En plus. Donc parfois, nous sommes les seuls à intervenir sur certains quartiers, et j'en suis désolée. Donc, et je dénonce régulièrement en fait l'indigence des services de l'État et de l'État. Donc, sur un certain nombre de secteurs, quand on voit qu'à Clichy-sous-Bois, il n'y a pas de Pôle emploi. Donc,
c'est donc quand là, même... c'est les services de droit commun qui ont disparu carrément.
Absolument. Quoi. Donc, il n'y a pas de possibilité, en fait, de se soigner. Donc, il y a aussi la problématique, en fait, de l'accès aux soins et à la santé dans les quartiers politiques de la ville. J'ai été à Marseille il n'y a pas très longtemps. J'ai été dans le quartier de la Savine, dans les quartiers nord de Marseille. Ils ont une vue magnifique sur le Vieux-Port. Il n'y a pas de bus. Vous ne pouvez pas y aller. Donc, on ne peut pas se substituer, en fait, au droit commun. Donc nous, on vient en complément et en plus parce qu'il faut qu'on soit levier, j'allais dire, du changement dans ces quartiers politiques de la ville.
Et là, effectivement, on imagine que si des fois ces quartiers, ces populations devaient rester dans ces situations-là, ça ne pourra pas durer de toute façon. Il faut absolument que ça change, que leur situation évolue, parce que sur du moyen, voire du long terme, un jour ou l'autre, il suffit d'un accident, d'un problème localisé pour que ça déborde. Hein, quoi.
J'espère que non. Donc j'espère que non. C'est aussi le rôle, en tout cas, de cette agence que d'apporter en tout cas des solutions. Là, le ministre... a fait des propositions pour refonder la politique de la ville. Hein. Donc il y a un certain nombre de propositions qui vont être mises en œuvre dès que la loi sera votée. On va réduire le zonage, donc de 2500 quartiers politiques de la ville, on va passer à environ 1000 quartiers politiques de la ville. Et l'idée, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. Donc il n'est pas normal d'accompagner des villes riches. Hein. Donc, qui ont aussi la possibilité de jouer la solidarité pour les habitants en fait, de leur quartier quand ils sont populaires. Et l'idée, c'est vraiment de donner davantage en fait, à ceux qui ont moins. Donc, il y a de nouvelles orientations qui sont prises en œuvre. Moi, j'espère que... on va réussir quand même.
Que vous allez être écouté aussi, Naïma Charré, parce qu'en tant l'espère. Que président de l'AXI, vous devez de faire aussi un rapport au plus haut instance de l'État, au chef de l'État peut-être, au ministre.
Absolument. Donc je rends compte de mes actions très régulièrement à l'Élysée. J'ai été à Matignon il n'y a pas très longtemps où j'ai fait un état des lieux de ce que je vois. De mon tour de France en fait en banlieue et des actions que je mène au service de la cohésion nationale, bien évidemment.
Donc on a l'écoute du président des ministères, vous avez l'écoute, je veux dire, les habitants des quartiers, du coup, à travers vous, à travers votre présidence de l'AXI, Naïma Charré, on l'écoute des plus hautes instances de notre République ?
Ils y sont très attentifs, en effet.
Peut-être des questions autour de la table.
Pas pour l'instant.
Oui.
Hugo.
Quand le 19 janvier, Jean-Marc Ayrault a annoncé ses 27 propositions pour les quartiers, il semblerait qu'il ait annoncé une fusion de l'AXI avec le SGCIV, le syndicat général du comité interministériel des villes. Est-ce que ça signifie la fin de l'AXI ?
Alors, pas tout à fait la fin de l'AXI. Alors, il y a une enquête, là, inter-inspection. Qui va avoir lieu. Donc on attend, moi j'attends la lettre de mission de cette inspection. Donc on devrait avoir des conclusions, je pense, dans le courant du mois d'avril ou du mois de mai. Moi, vous connaissez ma position hein, par rapport à la disparition en fait de cette agence. Je pense que c'est une agence qui est utile d'abord aux habitants des quartiers, que je ne comprendrais pas qu'une décision comme celle-ci soit prise eu égard le tableau que je viens de vous dresser. Donc il faut en effet faire des économies. C'est vrai, nous sommes en pleine crise économique, mais les économies, elles ne peuvent pas se faire sur des populations qui sont déjà en très grande précarité. Voilà, moi j'ai donné ma position et ensuite je verrai le moment venu quand la décision en fait sera prise. Mais pour le moment, elle ne l'est pas. Donc voilà.
Oui, c'est vrai que c'est, on va dire que. L'action et les pouvoirs de cette action, les pouvoirs financiers pour cette action restent difficiles, on le sait, parce que tout le monde nous parle d'économie budgétaire, le budget européen est à la baisse, le budget national est à la baisse, le budget des collectivités territoriales et locales est à la baisse. Alors c'est vrai que vous parlez de recentrage, de passer de 2500 quartiers à 1000 quartiers pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est peut-être une partie de la solution, oui. se recentrer sur ceux qui effectivement le nécessitent le plus. Ensuite, on le sait très bien, cette jeunesse qui habite dans ces quartiers, si on lutte pas contre les discriminations, demain, ça sera, comme vous le disiez tout à l'heure, l'accès, c'est pas uniquement pour les habitants des quartiers prioritaires, mais c'est pour l'ensemble de la société, pour la cohésion de cette société. Donc effectivement, si on s'attache pas à cette lutte contre les discriminations, et notamment dans les quartiers, et on pense aux jeunes, hein, qui tiennent pas tous des murs, comme vous l'avez dit, les macharas, mais qui ont souvent des diplômes et qui sont créateurs d'entreprises, on passera à côté de la cohésion de notre société, de notre avenir tout simplement aussi. Quoi.
Oui, absolument. Vous avez raison, lutter contre les discriminations, c'est un fléau, hein. Il gangrène en fait la banlieue, il gangrène la société française et nous sommes, nous avons ce devoir en tout cas de faire un certain nombre de propositions pour lutter contre ces discriminations. Vous rappeliez en fait les chiffres tout à l'heure du défenseur des droits, indiquant que les femmes étaient aussi victimes en fait de discrimination, mais sachez que l'une des premières saisines de la HALDE concerne des discriminations en fait liées à l'origine ethnique réelle ou supposée.
Tout à fait.
Et généralement, c'est concomitant, concordant plutôt avec le fait d'habiter en quartier populaire. Donc voilà, on a une vraie responsabilité, et je dirais même un devoir, que d'apporter des réponses à ces jeunes courageux, donc qui ont fait des études et qui, au moment de rentrer sur le marché de l'emploi, toutes leurs portes leur sont fermées. Nous avons en effet un devoir de leur faire un certain nombre de propositions et elles vont arriver dans, très prochainement.
Bon, très bien, on aura l'occasion de se recroiser, oui. MHRI et d'annoncer effectivement toutes ces mesures ou ces réformes. Mais c'est vrai, vous le disiez, être à la fois femme, on revient aussi au sujet de notre émission, habiter dans un quartier populaire, avoir des origines étrangères, ça fait que finalement une seule personne peut cumuler plusieurs motifs de discrimination finalement, quoi.
Absolument, c'est cumulatif, oui, tout à fait.
Donc, mais grâce à vous, Naïma, et votre fonction au Conseil régional et aujourd'hui président de l'ACCE, bon, écoutez, en tout cas, on suivra nous vos actions, Naïma Charaï, et on espère que ça évoluera évidemment dans un bon sens. Peut-être un dernier tour de table, une dernière question. On va rendre l'antenne d'ici une minute, deux minutes. Hugo Hamès, Solène, proaki.fr, Solène.
Un petit retour en fait sur faire le lien à ce qui vient d'être dit, la discrimination, donc les questions de diversité, comme on dit, et la question de la parité. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la journée du 8 mars, où Réjeanne Sénac avait avancé l'idée que, alors là c'était pour l'accès au pouvoir, donc on revient sur le domaine politique, avait avancé l'idée que parité et diversité étaient souvent liées dans l'idée de rentabilité en fait de l'action. C'est-à-dire que quand on allait mettre une femme en avant, la nommer ministre par exemple, pas à chaque fois, mais régulièrement en plus, on doublait son caractère de femme, si je peux dire comme ça, avec un élément de diversité. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou est-ce que après tout pas tant que ça?
Si. Et puis
la femme, la libide, la diversité.
La femme, voilà, exactement, ou l'inverse.
Non, mais oui, il y a une idée de rentabilité et en même temps, ça, on le voit souvent en fait en politique, c'est-à-dire qu'on essaye de pas trop perdre de place. Donc, si on pouvait mettre une femme arabe, vous dites la diversité, mais c'est arabe ou noir, quoi. Donc, les termes sont assez clairs. Et si elle pouvait être handicapée et en même temps habiter la banlieue, ça serait formidable. Donc, en effet, donc il y a. Je partage la thèse de Réjeanne Sénac.
Merci Solène, en tout cas pour cette question. Peut-être une dernière annonce pour finir, Naïma Charaï. Voilà, l'accès. Mais nous consultons en ce moment nous les associations. Hein. Donc associations, faites-vous connaître. L'accès organise une consultation sur Internet pour mieux connaître les associations qu'elles financent au titre de la politique de la ville. Donc voilà, il demandait aux associations de participer à la consultation pour mieux faire connaître les compétences, les actions, les engagements dans la politique de la ville, mais aussi les difficultés que rencontrent ces associations. Mais comment répondre sur le questionnaire? C'est très simple, il faut aller en ligne sur http://www.enquête-credoc.net, accès, enfin allez sur le site de l'accès, vous trouverez cette consultation. Hein,
c'est oui, tout à fait, donc merci.
Voilà pour cette annonce, Naïma Charaï. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce cadre média. On remercie Hugo Hamès pour le courrier français Girondin plutôt, excusez-moi.
Nous remercions Paul-Michaël Borgne pour l'écho des collines et bien sûr Solène Méric pour acquis.fr. Et vous, notre invité spécial, Naïma Charaï, conseillère régionale déléguée aux solidarités, à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Et depuis octobre, président de l'ACCE, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Merci encore Naïma Charaï, à très bientôt.
Merci de l'invitation à Aude Radio et puis à très bientôt.
Merci encore, au revoir. Et on n'oublie pas de saluer la régie technique, Nicolas et Jérôme. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cette émission sur Aude Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde du Vivre Ensemble, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.auderadio.net, onglet FEI.